Le colonel Guérinaldo Marquez fut le premier à ressentir la vanité de la guerre. En tant que commandant civil et militaire de Macondo, deux fois par semaine, il conversait par télégraphe avec le colonel Aureliano Buendía. Au début, ces entretiens déterminaient l'évolution d'une vraie guerre, en chair et en os, dont les contours parfaitement définis permettaient à tout moment de les situer avec exactitude et de prévoir ses itinéraires à venir. Bien qu'il ne se laissât jamais entraîner sur le terrain de la confidence, même avec ses plus proches amis, le colonel Aureliano Buendía gardait alors ce ton familier qui permettait de l'identifier à l'autre bout de la ligne. Il lui arriva plusieurs fois de prolonger ses conversations au-delà de la durée prévue et de se laisser aller à des considérations d'ordre familial. Peu à peu, cependant, à mesure que la guerre gagnait en intensité et en extension, son image s'estompa dans un univers irréel. Les points et les traits de sa voix devenaient chaque fois plus lointains et indistincts, se fondaient et se combinaient pour ne plus former que des mots insensiblement dépourvus de tout sens. Le colonel Guérinaldo Marquez se bornait alors à écouter, accablé par l'impression qu'il avait de se trouver en communication télégraphique avec un inconnu d'un autre monde. « Compris, Aureliano », concluait-il en actionnant le manipulateur. « Vive le Parti libéral !» Il finit par perdre tout contact avec la guerre, ce qui, en d'autres temps, avait consisté en une activité réelle, passion irrésistible de sa jeunesse, ne fut bientôt plus pour lui qu'une référence lointaine. Quelque chose qui se perdait dans le vague. Son seul refuge était l'atelier de couture d'Amaranta. Il allait la voir tous les après-midi. Il aimait à contempler ses mains tandis qu'elle plissait des falbalas de mousseline sur la machine à manivelle que faisait tourner Remedios la Belle. Ils restaient des heures et des heures sans se parler, résignés à se tenir l'un l'autre compagnie, mais tandis qu'Amaranta, intérieurement, se plaisait à entretenir le feu de sa dévotion, lui-même ignorait quel secret dessein recelait ce cœur indéchiffrable. Lorsqu'on avait appris la nouvelle de son retour, l'impatience de le revoir avait failli étouffer Amaranta. Mais quand elle le vit rentrer à la maison, mêlée à la bruyante escorte du colonel Aureliano Buendía, qu'elle le découvrit meurtri par les rigueurs de l'exil, vieilli par l'âge et l'oubli, couvert de sueur et de poussière mêlée, sentant le bouc affreux, le bras gauche en écharpe, la désillusion fut telle qu'elle se sentit défaillir. « Mon Dieu !» se dit-elle. « Ce n'était pas lui que j'attendais. » Le lendemain pourtant, il s'en revint à la maison parfaitement rasé et propre, la moustache parfumée à l'eau de lavande et débarrassé de son écharpe ensanglantée. Il lui apportait en cadeau un livre d'heures à la reliure incrustée de nacre. « Comme les hommes sont bizarres, » fit-elle, ne trouvant rien d'autre à dire. « Ils passent leur vie à lutter contre les curés et ils vous font cadeau de livres de prières. » Désormais, même pendant les plus dramatiques journées de la guerre, il lui rendit visite tous les après-midi. Bien des fois, quand Remedios la Belle n'était pas là, c'était lui qui faisait tourner la roue de la machine à coudre. Amaranta se sentait troublée par tant de persévérance, de fidélité, de soumission chez un homme investi de tant de pouvoir et qui se dépouillait néanmoins de ses armes au salon pour pénétrer sans défense aucune dans l'atelier de couture. Mais pendant 4 années de suite, il lui répéta son amour et elle trouva toujours une façon de le repousser sans le blesser, car si elle ne parvenait pas elle-même à l'aimer, elle ne pouvait déjà plus vivre sans lui. Remedios la Belle, qui paraissait indifférente à tout, et dont on pensait qu'elle était un peu arriérée, ne resta pas insensible à tant de dévotion et intervint en faveur du colonel Guérinaldo Marquez. Amaranta découvrit brusquement que cette fillette qu'elle avait élevée, qui commençait à peine à s'ouvrir à l'adolescence, était déjà la plus belle créature qu'on eût jamais vue à Macondo. Elle sentit renaître en son cœur le ressentiment qu'elle avait éprouvé autrefois à l'encontre de Rebecca, et priant Dieu qu'elle ne se laissât pas entraîner à la limite à souhaiter sa mort, elle la mit à la porte de l'atelier de couture. C'est vers cette époque que le colonel Guérinaldo Marquez commença à être dégoûté de la guerre. Il fit appel à tout son pouvoir de persuasion, à son immense tendresse contenue jusque-là, disposé à renoncer pour Amaranta à une gloire qui lui avait coûté le sacrifice des meilleures années de sa vie. Mais il ne parvint pas à la convaincre. Un après-midi du mois d'août, accablé sous le poids insupportable de sa propre obstination, Amaranta s'enferma dans sa chambre, décidée à pleurer sur sa solitude jusqu'à la mort, après qu'elle eût dit son dernier mot à son tenace prétendant, « Oublions-nous à jamais, » lui dit-elle. « Nous sommes déjà trop vieux pour ce genre de choses. » Cet après-midi-là, le colonel Guérinaldo Marquez eut à répondre à un appel télégraphique du colonel Aureliano Buendía. Ce fut un entretien de pure routine qui ne devait ouvrir aucune brèche dans l'enlisement des combats. Au moment d'en finir, le colonel Guérinaldo Marquez contempla les rues désolées, l'eau cristallisée sur les amandiers, et se sentit perdu dans sa solitude. « Aureliano, » fit-il en actionnant tristement le manipulateur, « en ce moment, il pleut à Macondo. » Il y eut un long silence sur la ligne, puis brusquement les appareils tressautèrent pour livrer passage au signe impitoyable du colonel Aureliano Buendía. « Ne sois pas con, Guérinaldo, » répondirent les signes. « Il est naturel qu'il pleuve en août. » Il y avait tellement longtemps qu'il ne s'était vu que l'agressivité de cette réaction déconcerta le colonel Guérinaldo Marquez. Deux mois plus tard pourtant, lorsque le colonel Aureliano Buendía s'en revint à Macondo, son déconcertement se changea en stupeur. Même Ursula fut étonnée de constater combien il avait changé. Il arriva sans bruit, sans escorte, enveloppé dans une couverture malgré la chaleur et accompagné de trois maîtresses qu'il installa sous le même toit où il passa désormais la majeure partie de son temps couché dans un hamac. À peine lisait-il les dépêches télégraphiques qui donnaient des informations sur les opérations de routine. Un jour, le colonel Guérinaldo Marquez vint lui demander des instructions pour l'évacuation d'un village frontière où la guerre menaçait de dégénérer en conflit international. « Ne me dérange pas pour de paille, vétille !» lui ordonna-t-il. « Demande conseil à la divine providence !» On en était peut-être à la phase la plus critique de la guerre. Les propriétaires libéraux, qui avaient commencé par soutenir la révolution, avaient conclu de secrètes alliances avec les propriétaires conservateurs dans le but d'empêcher la révision des titres. Les politiciens, qui avec la guerre faisaient leur beurre en exil, s'étaient publiquement désolidarisés des décisions drastiques du colonel Aureliano Buendía, mais même ce désaveu paraissait le laisser indifférent. Il n'avait plus relu ses vers, qui occupaient plus de 5 volumes et demeuraient oubliés au fond de leur malle. Le soir, ou à l'heure de la sieste, il appelait dans son hamac une de ses femmes dont il retirait une satisfaction sommaire avant de s'endormir d'un sommeil de plomb que ne venait troubler le plus léger indice d'une préoccupation quelconque. Il était le seul à savoir alors que son cœur plein de vertige était à jamais condamné à l'incertitude. Au début, enivré par la gloire du retour, par d'invraisemblables victoires, il s'était laissé fasciner par l'abîme de la grandeur. Il se plaisait à être le fidèle compagnon du duc de Marlborough, son grand maître dans l'art de la guerre, dont la fastueuse tenue en fourrure et griffes de tigre inspirait le respect aux adultes et effrayait les enfants. C'est alors qu'il décida qu'aucun être humain, pas même Ursula, ne l'approcherait à moins de 3 mètres. Au centre du cercle de craie dessiné par ses aides de camp en quelque endroit qu'il arriva, et à l'intérieur duquel lui seul pouvait entrer, il décidait du destin du monde par ordre bref et sans appel. La première fois qu'il se rendit à Manaoré après l'exécution du général Moncada, il s'empressa d'accomplir la dernière volonté de sa victime, et la veuve rentra en possession des lunettes, de la médaille, de la montre et de l'alliance, mais lui interdit de passer le seuil de chez elle. « N'entrez pas, colonel, lui dit-elle. Vous commandez dans votre guerre, mais je commande encore dans ma maison. » Le colonel Aureliano Buendía ne fit montre d'aucune rancœur, mais son esprit ne trouva vraiment le repos qu'après que sa garde personnelle eut mis à sac et réduit en cendres la maison de la veuve. « Fais attention à ton cœur, Aureliano, » lui disait alors le colonel Guérinaldo Marquez. « Tu es en train de pourrir sur pied. » Il convoqua vers cette époque une seconde conférence des principaux commandants rebelles. Il y trouva un peu de tout, des idéalistes, des ambitieux, des aventuriers, des déclassés aigris, et jusqu'à des délinquants de droit commun. Il y avait même un ancien fonctionnaire conservateur qui s'était réfugié dans l'insurrection afin d'échapper à une condamnation pour détournement de fonds. Beaucoup allaient jusqu'à ignorer pourquoi il combattait. Parmi cette assemblée bigarrée, dont les mobiles si différents faillirent provoquer une explosion interne, se détachait une ténébreuse personnalité de chef, le général Teófilo Vargas. C'était un pur indien, farouche, analphabète, doué d'une sagacité taciturne et d'une vocation messianique qui inspirait à ses hommes un fanatisme dément. Le colonel Aureliano Buendía avait organisé cette conférence dans le dessein d'unifier le commandement rebelle contre les manœuvres des politiciens. Le général Teófilo Vargas alla bien au-delà de ses intentions. En quelques heures, il fit éclater la coalition des commandants les mieux qualifiés et s'empara du commandement suprême. « Ce n'est qu'un requin dont il faut se méfier !» dit le colonel Aureliano Buendía à ses officiers. « Cet homme est encore plus dangereux pour nous que le ministre de la guerre !» Un capitaine, tout jeune, qui s'était constamment distingué par sa timidité, leva alors un doigt prudent. « C'est très simple, colonel » proposa-t-il. « Il faut le tuer !» Le cynisme de cette suggestion ne troubla point le colonel Aureliano Buendía, mais plutôt la façon dont elle n'avait précédé que d'une fraction de seconde sa propre pensée. « N'attendez pas que je donne cet ordre, » fit-il. Il ne le donna pas, en effet, mais 15 jours plus tard, le général Teófilo Vargas fut dépecé à coups de machette au cours d'une embuscade et le colonel Aureliano Buendía assuma le commandement suprême. La nuit même où son autorité fut reconnue par tous les commandos rebelles, il se réveilla en sursaut pour réclamer à grands cris une couverture. Un froid intérieur qui le pénétrait jusqu'aux os et le mortifiait même en plein soleil l'empêcha de bien dormir pendant plusieurs mois, jusqu'à ce qu'il en prît l'habitude. L'ivresse du pouvoir commença à se gâter par bouffées amères. Cherchant un remède contre le froid, il fit fusiller le jeune officier qui avait proposé l'assassinat du général Teófilo Vargas. Ses ordres étaient accomplis avant d'être communiqués, avant même qu'il ne les conçût, et allaient toujours beaucoup plus loin qu'il n'aurait osé les faire aller. Égaré dans la solitude de son immense pouvoir, il commença à perdre la boussole. Il était irrité par les gens des villages vaincus qui l'acclamaient. Pour lui, c'étaient les mêmes qui acclamaient l'ennemi. Partout, il rencontrait des adolescents qui le regardaient avec ses propres yeux, qui parlaient avec sa propre voix, qui le saluaient avec le même air méfiant qui était le sien, pour répondre à leur salut, et qui disaient être ses fils. Il se sentit dispersé, répété, et plus solitaire que jamais. Il acquit la certitude que ses propres officiers lui mentaient. Il se prit de querelle avec le duc de Marlborough. Le meilleur ami, avait-il coutume de dire alors, c'est celui qui vient de mourir. Il se lassa de cette incertitude, du cercle vicieux de cette guerre éternelle qui le trouvait en tel et tel endroit toujours les mêmes, seulement plus vieux chaque fois, plus ravagé, plus ignorant du pourquoi, du comment, du jusqu'à quand. Il y avait toujours quelqu'un en dehors du cercle de craie. Quelqu'un qui avait besoin d'argent, qui avait un fils atteint de coqueluche ou qui désirait s'en aller dormir à jamais parce qu'il ne pouvait plus supporter dans sa bouche le goût de merde de la guerre et qui, cependant, réunissait ses dernières forces pour se figer au garde-à-vous et rapporter « Rien à signaler, mon colonel !» Et ce « rien à signaler » était précisément la chose la plus épouvantable dans cette guerre qui n'en finissait pas. Rien ne se passait. Seul, abandonné par les présages, fuyant le froid qui devait ne pas le quitter jusqu'à la mort, il s'en vint chercher un dernier refuge à Macondo, à la chaleur de ses plus anciens souvenirs. Si grande était son incurie, qu'au moment où on lui annonça l'arrivée d'une commission de son parti mandatée pour discuter des orientations que pouvait prendre la guerre, il se retourna dans son hamac, sans se réveiller tout à fait. « Conduisez-les chez les putains » dit-il. C'étaient 6 avocats en redingote et haute forme qui supportaient avec un rude stoïcisme le dur soleil de novembre. Ursula les hébergea sous son toit. Ils passaient la plus grande partie de leur journée enfermés dans une chambre, en secret conciliabule, et, à la tombée de la nuit, demandaient une escorte ainsi qu'un ensemble d'accordéons et investissaient l'établissement de Catarino. « Ne les dérangez pas, » ordonnait le colonel Aureliano Buendía. « En fin de compte, je sais bien ce qu'ils veulent. » Au début de décembre, la rencontre tant attendue et dont beaucoup avaient imaginé qu'elle donnerait lieu à d'interminables discussions, prit fin en moins d'une heure.